Il y a longtemps qu'il sait ou qu'il pressent, John Wrighty, l'horreur vers laquelle nous allons. Fin du paragraphe, écrit le 25 juin. Plusieurs mois plus tard, le 1er septembre. Les statistiques étaient imprécises, en effet. Les calculs faux. Au troisième mois de la grande panique, on considère communément que le tiers de la population terrestre a disparu. 3,5 milliards d'hommes et de femmes n'ont pu supporter la goutte supplémentaire qui tue. La progression du mal commença le jour même où Hunedy nous en révéla l'existence. Une semaine plus tard, le secret était impossible à garder. On dénombrait des milliers de cas chaque jour. À la mi-juillet, de 60 à 100 000 malades se pressaient quotidiennement aux portes des hôpitaux dans toutes les capitales du monde. Au début d'août, ils étaient 4 fois plus nombreux. De ce moment, la panique devint incontrôlable. Aux décès causés par le mal s'ajoutèrent des suicides en chaîne, beaucoup préférant une mort sans douleur à l'attente éprouvante de la lèpre atomique. Puis, on sut que Pékin avait interdit l'usage des piles et des réacteurs. Les émissions de télévision furent supprimées dans les républiques soviétiques, des réserves de radium jetées dans l'océan. Washington hésitait encore. Enfin, le 26 août, à la Maison-Blanche, ce fut la réunion soudaine des gouvernements occidentaux et des officiers supérieurs des armées de dissuasion. Hunedy dut s'y rendre. Le débat se prolongea toute une semaine, au bout de laquelle nous apprîmes à la fois les démissions du président Holley, du secrétaire général du CTO, du secrétaire général de l'ONUO et l'interdiction à tous les stades de la consommation de l'utilisation nucléaire. Le jour où ces décisions nous furent connues devait être également le jour le plus meurtrier de la grande panique. De l'aube au crépuscule, 80 millions d'hommes et de femmes périrent, presque autant que pendant les 8 semaines précédentes. Depuis lors, à ma connaissance, ce taux n'a pas été dépassé. Cependant, il se maintient, et ce sont ces jours effroyables, tels que je les ai vécus à Tijika, qu'il me faudrait maintenant raconter si je m'en sentais le courage. Fin de l'écrit le 1er septembre, 15 jours plus tard, le 16 septembre. Le thème de l'attente de la fin du monde, je le notais ici au mois de juin, à la veille même de la catastrophe. Avec quelle tranquillité! Et l'un de ceux qui, sans doute, ont le plus tenté les romanciers dans la seconde moitié du XXe siècle. Né aux USA et en Angleterre dès le lendemain de la guerre de 14-18, cette vogue avait gagné l'Europe après 1940 et beaucoup plus tard la Russie. Mon grand-père disait que lorsqu'il était enfant à Lyon, toutes les librairies de la ville offraient encore quelques « Dernier rivage » ou « Dernier jour du monde », roman de science-fiction ou essai scientifique. Tout était bon qui prétendait décrire l'état d'esprit des hommes lors de la grande catastrophe. Étrangement, les maîtres de la littérature entre 1920 et 1960, Proust, Valéry, Faulkner, Joyce, Hemingway, avaient disparu des vitrines au profit de ces prophètes sombres. Bradbury, Lovecraft, Polovsky, Van Gogh, Brown, Bester, Barjavel. Eh bien, nous le savons maintenant, tous se trompaient. Une fois encore, Ce serait chez les poètes que l'on trouverait l'image la plus fidèle de la grande panique telle que nous la vivons, chez Rimbaud et Eliot, chez Beckett et Michaud, ou le sublime Artaud, que nos pères ont ignoré. Car nous ne songeons pas à profiter follement, absurdement d'un hypothétique sursis. Il n'y a pas d'avare classique vautré sur son tador, ni de Don Juan sur le retour affamé de chair fraîche, ni de goinfre vorace à l'assaut des boutiques. Quand l'espoir est tout à fait mort, quel vice lui survivrait? L'homme s'adapte mieux qu'on pouvait le craindre à l'idée de sa fin prochaine. On dirait qu'elle dessèche d'abord la source de nos désirs. Jeunes et vieux ne souhaitent que vivre, vivre à tout prix. Et la croyance nous gouverne, naïve peut-être et sans fondement, que toute dépense d'énergie accélérerait l'évolution du mal. Dormir, attendre. Comme le héros de la métamorphose, nous vivons réfugiés dans nos appartements et dans les chambres les plus retirées de ceux-ci. Nous absorbons des drogues et nous dormons. Nous voudrions ne plus respirer jusqu'à l'heure de notre délivrance si elle doit sonner à nouveau. Dans les rues se traînent des malheureux qui cherchent eux-mêmes leur nourriture, un morceau de pain ou un peu de lait, l'indispensable pour ne pas mourir, ou bien souvent au crépuscule, comme s'il fallait aussi fuir la lumière du jour, dans cette autre croyance que les radiations cosmiques se propageraient comme la lumière, on voit les foules se rendre à quelques réunions, quelques cérémonies religieuses ou fraternelles dans une église, un temple, une mosquée. Toujours, il leur faut croire, si ce n'est plus en la science, en une divinité. Je pense tout à coup que les prophètes de malheur ne peuvent pas se tromper. Le malheur survient nécessairement un jour ou l'autre. Seul l'aveuglement d'une civilisation à son apogée peut faire rejeter cette évidence.